24 octobre 1991. Mercedes. J'ai 27 ans, accompagné de Frédéric, mon ami du moment. Je dis du moment, car je ne sais pas les garder longtemps, mon lourd passé me poursuit. Depuis ma perte de mémoire, j'ai oublié mon premier amour, pourtant il m'apparaît en rêve, régulièrement, et il ne reste qu'une sensation confuse au réveil, mais je sais que c'est lui. Fred et moi adorons les marchés aux puces, nous sommes à celui d'Ise-sur-Sorgue. J'y viens plus pour l'étalage à la Prévert qui me fascine que pour la recherche de la pièce rare. À Outre-Quiévrin, d'où mon ami est originaire, ils disent brocante, c'est au pays des belles ducasses, une appellation plus consensuelle et joyeuse. Mais moi, je préfère vide-grenier, vocable contenant déjà en lui tout le mystère, toute l'essence de l'objet et de son symbolisme, il exprime superbement bien la symbiose entre son origine obscure, mystérieuse, et son devenir. Il exprime surtout l'attrait manifestement sensuel que nous partageons, nous avons la même approche du sujet, nous ne cherchons rien de particulier, et en même temps tout, et moi, j'espère toujours trouver des traces de mon passé oublié. Fred, paradoxalement, est impressionné par l'exotisme de nos étals. Pour lui, c'est un endroit rabelaisien où s'accumulent, s'entassent tous les rebuts du destin, toute la pauvreté du monde, de notre société de consommation, comme le maelstrom de Jules Verne qui attirait avec amour en son sein tout ce qui passe en deçà de la limite visible de son champ d'action. Les outils biscornus aux formes étranges, à l'usage depuis longtemps oublié, les livres de tout format aux couvertures tristes ou, au contraire, riantes, vaisselle bon marché, céramiques et porcelaines mélangées, dépareillées et ébréchées, fumetti, petites bandes dessinées vendues dans les kiosques de gare et les épiceries. Les souvenirs de voyages exotiques ou les dernières vacances à Palavas-les-Flots, des choses communes et sans histoire, comme la toupie offerte par ma tante, les minéraux aux couleurs rutilantes, les coquillages et curiosités inquiétantes. Les vêtements dépareillés, usés et autres fripes joliment décolorées, les gadgets inutiles, les cadeaux publicitaires, les copies du plus mauvais goût, les petites voitures, les pantins dépenaillés et les poupées aux couleurs fanées. Mais comment pourrions-nous y retrouver un ami égaré, un amour perdu au mois d'août ? Nous avons tous les deux la même façon d'appréhender l'âme de ces déchets sociaux. Il faut impérativement percer la surface apparente de l'image renvoyée, comme la lys de Lewis Carroll et son miroir magique, ouvert sur un ailleurs. Ces objets prennent alors d'autres dimensions, ils muent en d'autres colorations, ils deviennent des portes ouvertes sur le rêve, sur le voyage immobile. Celui-ci n'est-il pas plus beau, plus riche que celui du réel ? Il y a aussi le plaisir de l'œil de percevoir, perdu dans un capharnaüm d'objets obsolètes, disparates et incongrus, la perle merveilleuse, digne d'une Haïdée, égarée par Sinbad, échappée d'un conte oriental des mille et une nuits. Comment décrire le bonheur que nous avons de trouver sur le coin d'un banc un album à la coiffe fatiguée, une rare édition Casterman de Tintin en noir et blanc, petite image ou une aventure de Ribouldingue, Filochard et Croquignol, la terrible équipe des pieds nickelés qui ont bercé notre enfance à tous deux, lui à Maubeuge, moi en Normandie, ou encore un célèbre album de chez Gauthier Langereau comme l'enfance de Bécassine. Quelle extraordinaire aventure de trouver au fond d'une vieille boîte de bazar ayant contenu jadis des cigarettes turques ou des bergamotes de Nancy, ô merveille des merveilles, un des 30 deniers au nom de César que Judas reçut comme mirifique rétribution pour le baiser de sa trahison. C'est comme ça que, parmi un mélange hétéroclite de jouets cassés, vieille boîte, j'aperçus un coin jaune-orange caractéristique, je la tirai hors du panier. Oui, c'était bien une vieille boîte métallique de cigarettes Camel. L'image du dromadaire, avec la pyramide de Gizeh en arrière-plan, me ramena subitement 9 ans en arrière. Quand je disais que le voyage immobile... Je me rappelle, et oui, je me rappelle, c'était l'année où je venais de terminer le lycée et j'étais avec papa en Égypte. En mon arrivée à Alexandrie, j'avais été très étonné de l'animation qui régnait sur les pavés de la chaussée. Une vraie ruche vivante, des gens couraient de droite et de gauche, se heurtaient, se bousculaient, s'invectivaient, s'excusait comme les abeilles des rayons de grand-père lorsqu'il voulait leur emprunter du miel. Ici, contrairement à mon village du nord de la France, dès le premier débarcadère, les anneaux d'amarrage en bronze forgé étaient impressionnants par leur taille et imposants de lourdeur. À l'extrémité du quai, juste avant la grande avenue, trônait un obélisque monumental dressé verticalement sur le front de mer, contrastant avec l'horizontalité de celui-ci. Le soleil tapait dur en cette journée et la lumière éblouissante écrasait un peu la grandeur du monument. Dans l'air chaud, de petits fétus de paille voltigeaient dans des ascenseurs sans parois. Ils montaient, descendaient en une véritable chorégraphie aérienne qui me donnait le tournis. Les odeurs de crottin, intimement mélangées au parfum des épices exposées sur les étals, l'agitation de la foule qui semblait n'aller nulle part, tout ce bruit ne m'aidait en rien. Il était midi et bientôt cela allait se calmer, les gens rentreront chez eux. Arrivé à l'hôtel, je m'empare du premier fauteuil venu et je me laissai tomber avec un soupir d'aise juste en face de la porte qui donne sur le grand restaurant où un brouhaha sourd signale l'importance du chaland. Une énorme jarre, vide de son palmier miniature, était emplie d'eau claire pour rafraîchir l'atmosphère, je suppose. Les occupants du restaurant entretenaient un bruit confus de couverts entrechoqués, de bouts de phrases, d'exclamations retenues, des appels désespérés, le tout dans un parfum de poisson frit, d'huile d'olive, plus, de temps en temps, des Rolands de la rue s'y mêlés. C'était magique et dépaysant au possible, on était loin des bruits feutrés des salons de chez nous. Dans l'après-midi, nous nous sommes rendus au Caire, où nous avions rendez-vous au salon du Savoy, celui de la rue Soliman Pacha, bien que je crois qu'il n'y en a pas d'autre, du moins au Caire. J'y fêtais mes 18 ans, et je ne pense qu'à Edmond, mon amoureux chéri, que j'ai dû abandonner lâchement, sans même le prévenir, tant mon départ était impromptu. Papa venait de m'offrir le plus beau cadeau dont j'aurais pu rêver, une excursion en chameau dans le désert égypto-libyen. Nous accompagnons un groupe franco-anglais de ces relations. Je suppose que le passage par la toute jeune découverte de la grande nécropole du Fayoun était pour beaucoup dans cette euphorie. Les plaquettes de bois peint recouvrant le visage des momies m'avaient émerveillé par leur réalisme et la fraîcheur de leurs couleurs. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres et dévoilaient ainsi toute une population vieille de plus de 2000 ans. Après la grande oasis du Fayoum, la Méharé s'était dirigée vers l'oasis de Siwa, près de la frontière libyenne. Nous étions 12, un chamelier, un guide, un cuisinier, les amis de papa et enfin moi, accompagné de Saïd, mon petit protégé. Enfant unique, enfant inespéré, venu après 15 ans de mariage, j'étais chouchouté par ma mère et je crois que j'étais la petite princesse de mon père qui ne savait que trouver pour me faire plaisir. Noble de naissance, maman était issue d'une vieille aristocratie sévère et, disons-le, coincée, à cheval sur les principes. Elle n'avait de cet héritage familial qu'un port de tête altier et une coiffure toujours impeccable. Pour le reste, elle était pour moi une mère attentive, aimante et même parfois trop. Me couver était peu dire. Comment avait-elle pu me laisser partir avec mon père, surtout en Égypte, nous ne l'avions jamais compris. Par contre, nous avions très vite compris la difficulté de la progression sur un terrain aussi mouvant que le sable du désert, surtout que nous devions descendre régulièrement de notre dromadaire pour ne pas le fatiguer inutilement. Mais après quelques longues minutes, le corps s'adaptait et l'effondrement doux du sable à chaque pas finissait même par être plaisant. Les dunes blondes, grises, blanches à certains endroits, succédant aux ravines et ouettes asséchées, créaient une sensation de plénitude merveilleuse. Le silence et le crissement du sable qui s'écoule soulignaient la majesté de cet après-midi. Le crépuscule vit les dunes prendre des couleurs orangées, puis rougeâtres, et même pour certaines, des nuances violines et lies de vin. Le soir, le cuisinier nous offrait de la semoule avec des languettes de viande d'agneau grillées sur le feu. Même le bois était transporté par les dromadaires, une essence plus lourde, plus massive. Le guide nous expliqua l'itinéraire du lendemain et les difficultés que nous allions rencontrer autour d'un thé très parfumé, son sourire franc et joyeux, celui qu'on ne réserve qu'aux intimes, nous réchauffait le cœur. La nuit, bien installée maintenant, amenait une température qui dégringolait à une vitesse qui nous obligea à nous installer dans les sacs de duvet et nous nous installâmes autour du feu. Peu dormirent cette nuit, tant elle était scintillante d'étoiles. On y voyait les constellations, devinait les signes du zodiaque, un tel ciel évoquait l'immortalité, l'éternité, un calme intérieur infini. Il était facile de comprendre la fascination que ce genre de voûte céleste avait eue sur les anciens Égyptiens. Cet émerveillement se transforma petit à petit en une sérénité, un bien-être, où l'âme est en accord parfait avec l'esprit et le corps. Puis je m'endormis sans même m'en rendre compte. Saïd, lui, dormait depuis longtemps du sommeil de l'innocence. Nous sommes repartis dès l'aube, après un thé pris sur le pouce dans la nuit encore très sombre. Ce départ précoce était justifié par l'envie de marcher le plus possible avant que les rayons ardents du soleil n'écrasent toute la vie du désert. C'est en passant le sommet de la dune que je compris immédiatement la terrible journée que nous allions subir. Les météorologues nous avaient promis une semaine de beau temps et pourtant, à l'horizon, une barrière rouge d'une dizaine de mètres de haut fonçait à notre rencontre à la vitesse d'un cheval au galop. C'était le terrible Khamsin, le symbole du dieu Seth, un symbole de mort pour qui se laisse surprendre. Je fis baraquer mon chameau comme mes compagnons, et c'est à l'abri de leur corps que nous nous abritâmes, et c'est, bien sûr, le moment que choisit mon foulard pour courir la prétantaine, le foulard de maman auquel elle tenait tant. J'ai couru quelques pas pour l'attraper, et je me suis retourné pour rejoindre mes compagnons, mais déjà un brouillard de sable me les cachait tous, mes amis, mon dromadaire. Je me suis mis à l'abri sous un surplomb rocheux providentiel où la soie s'était enfin arrêtée. Je me suis recouverte de ma djellaba, entourée la tête de ma longue chéchia de randonnée et je me suis coulée dans l'anfractuosité face à la roche, dos au désert. Le vent hurlait sa haine du vivant. Il était accompagné d'un sable qui m'ensevelissait dans un bruit assourdissant. Je me souviens de ma peau transpercée par de milliers de petites aiguilles comme si un essaim d'abeilles se posait autour de nous, le tout dans un frémissement électrique de mauvais augure. Je m'étais pelotonné contre le rocher quand tout à coup l'intensité du bruit tomba. Subitement, j'étais bien. Cela me rappelait les moments où j'étais dans les bras d'Edmond, mon chéri. Il me serrait un peu fort, mais j'aimais ça. Il me susurrait les mots que tous les amants rêvent d'entendre. Le doux gémissement du sable, le bruissement de mon sang qui résonnait à mon oreille, les murmures charmeurs d'Edmond, tout cela m'engourdissait, tout doucement je m'engourdissais. « Non, surtout pas, me dis-je, surtout pas dormir. » Le crissement du sable, le gémissement de mes sens, les chuchotements d'Edmond, tout se mélange, je suis bien, sable, sang, mon amoureux, je bascule, je sombre. Je plane au milieu de nulle part, du néant. Seul un silence angoissant souligne ce vide, et ensuite, même ce silence disparaît. Puis, plus rien du tout, même plus Edmond. La tempête passée, tout le monde se releva, en piteux état, déshydraté, mais heureux d'être en vie. Mais, très vite, ils se rendirent compte de ma disparition et de celle de papa. Ils retrouvèrent mon chameau, seul. Puis, après des heures de recherche vaines, concernés et attristés, ils se résignèrent à retourner au Caire. Saïd tarabusta le guide pour que l'on retourne sur les lieux du drame. C'est en scrutant scrupuleusement le sol que Saïd trouva, au pied d'une pointe rocheuse, émergeant du sable, un morceau du foulard rouge qui dépassait du sol. Frénétiquement, il commença à creuser, puis le guide lui donna un coup de main et finit par me retrouver, allongé sous la roche, engoncé dans le tissu de ma djellaba. J'avais le visage tourné vers le rocher, et l'espace de la crevasse qui continuait en s'amenuisant m'avait sauvé la vie. Un énorme scorpion noir, tout étonné de trouver la sortie de son abri obstrué, creusait sous mon épaule pour trouver une issue au piège qui s'était refermé sur lui aussi. Alors que le guide faisait rouler mon corps hors de la cavité, le scorpion, surpris par la lumière, recula au fond de la crevasse, s'introduisit en marche arrière dans une fente du rocher et disparut à la vue. J'étais, comme Lazare, sortant de son tombeau tout entouré de ses bandelettes, et, comme lui, j'étais vivante, un souffle très léger faisait frémir ma bouche. Ils me ramenèrent au Caire le plus vite possible en me mouillant le visage régulièrement. Ils me déposèrent à l'hôpital de Zamalek. Je semblais souffrir, j'étais totalement déshydraté et respirais avec difficulté. Les médecins me mirent en perfusion intensive. Ils ne retrouvèrent pas papa qu'ils espéraient à côté de moi. Les jours suivants, toute une équipée, malgré des recherches minutieuses, chercha en vain. Je me suis réveillé. Je ressentais comme un feu d'artifice, j'avais des vagues de nausées, le corps me brûlait, la douleur était trop forte et je m'enfermais dans une vision en noir et blanc, surtout du blanc, beaucoup de blanc, trop de blanc. Je marche dans une sorte d'ouate blanche, un peu cotonneuse même. Un silence hallucinant règne autour de moi. La seule chose que je perçois, c'est la bordure du trottoir qui défile imperturbablement sous mes pas. La seule chose bizarre, c'est la couleur bleue de cette bordure, un bleu gris qui ne ressemble pas au petit granit dans lequel sont faites les bordures de trottoir. Je l'observe un peu mieux. « Oui, me dis-je, elle est bizarre, elle est trop étroite, et puis c'est quoi, cette poignée qui subitement émerge lentement, comme à regret, du brouillard ?» Je la fixe et je me rends compte d'un coup que ce n'est pas une bordure de trottoir et que d'ailleurs je ne marche pas. Il s'agit, en fait, d'un chambranle de fenêtre et même d'une grande baie sur laquelle l'eau de l'arrosage du parc joue presque silencieusement du djembé. Au dehors, il fait sombre. Depuis le début du jour, le temps était suspendu à cette chape grise avec cette nuance violine qui accentue le côté tragique des nues. Le bleu du ciel se dérobait, comme l'amante qui joue, cachée sous la couverture. Il était lisse, uniformément sombre, comme l'eau d'un lac mort. L'eau d'un de ces lacs préhistoriques que l'on aimait à imaginer, perdu dans un paysage vert ébène, spongieux et terrible. Un lac sans âme, aux eaux sans fond, où rien ne se reflétait si ce n'était l'ombre de la mort, un lac que l'on s'empressait d'oublier, que l'on chassait le plus vite possible de son esprit. Il devait être presque 5 heures quand l'arrosage du jardin cessa dans un dernier râle. Le soleil, tout aussitôt, prit possession de tout l'espace. Il était partout, sur les cimes des hauts palmiers qui tendaient leurs ramures aux feuilles meurtries, sur le lac qui soudain prenait vie, s'éclairait et, double parfait, reflétait avec émerveillement ce qu'il voyait aux alentours. D'abord, les murs du centre hospitalier, dont le blanc, jusqu'alors invisible, éclatait comme la joie d'une jeune communiante. Jamais je n'avais vu de blanc aussi lumineux. Ensuite, sur les carreaux tout dessinés encore de lignes mouillées, constitués de centaines de minuscules gouttes d'eau évoquant 1000 arcs-en-ciel qui envahirent soudain la chambre. Un rideau de dentelle transforma ces 1000 éclats de lumière en 10 000 étoiles multicolores. Elles explosèrent alors en millions de constellations scintillantes, réchauffant le bleu du bois clair de la fenêtre, se reflétant comme un immense univers à travers la psyché de la coiffeuse et faisant vibrer le couvre-lit au crochet, l'animant de tressaillements joyeux. Seul, dans un coin, sur l'appui de la fenêtre, 7 montres anciennes restaient suspendues au temps qui n'existait plus, reflet fidèle de ces choses du passé que l'âme de collectionneur de papa chérissait. Souvenirs arrêtés d'êtres depuis longtemps disparus, objets devenus dérisoires, figés à l'heure de l'éternité. Dans la chambre calme et silencieuse, seul le tic-tac du réveil emplissait tout l'espace. Lui aussi comptait le temps qui s'écoule et, si on l'écoutait suffisamment longtemps, le temps s'écoulait et disparaissait très lentement. Le muezzin de la mosquée lança l'adhan. Au loin, un autre lui répondait. Ils annonçaient la prière du soir. Cet appel syncopé et mélodieux était paradoxalement accompagné de mélopées berbères, de chants langoureux lénifiants. Le soleil, dans un dernier sursaut d'orgueil, lança ses rayons subitement rougeoyants au travers de la chambre, épousant une dernière fois l'argenté du miroir, le bleu du bois de la fenêtre, le blanc du lit et même ce visage calme posé sur l'oreiller. J'ouvris les yeux. Les mélopées berbères me berçaient comme dans mon enfance. Une femme entra avec une tasse de thé chaud et parfumé, me regarda assise dans le lit blanc. « Mercedes, tu es revenue de ton long voyage, quel bonheur !» Elle me dit qu'elle était ma Samira, ma nounou, celle qui me chantait des chants berbères appropriés, des chansons d'amour quand j'avais du vague à l'âme, des berceuses quand je n'arrivais pas à m'endormir, Elle était celle qui nous avait accompagnés en Europe quand maman ne supporta plus le climat chaud et sec de l'Égypte. Elle était celle qui s'exila pour mon bonheur. Mais cette femme, ridée comme une pomme rainette ayant passé l'hiver au grenier, m'était totalement inconnue. Les larmes me montèrent aux yeux, coulèrent sur les joues et finirent par mouiller le drap. Je laissai ma tête retomber sur le coussin. J'étais si lasse. « Attends, ne pleure pas. C'est tellement merveilleux que tu sois revenu du monde des ombres. Les anciens dieux t'ont donné une seconde chance. Ils t'ont fait retrouver le chemin des vivants. Même si tu n'as pas de souvenirs, ils vont revenir, crois-moi. Prends patience. Je cours prévenir le médecin de ton réveil. » Je suis rentrée en Europe, où maman m'avait réservé une place dans une maison de convalescence et où, on espérait, j'allais achever de me remettre. Ce matin, le chaton, petit fripon, est sur l'appui de la fenêtre extérieure de la chambre à coucher. La garde de nuit a dû le laisser sortir. Il est assis, hiératique, telle Bastet l'égyptienne. Il observe le jardin, mine de rien, et surtout le vieux palmier dattier qui pousse sur la façade de la maison de repos. Il observe du coin de l'œil sans le regarder vraiment, mais chaque fois que les tourterelles viennent manger aux boules de nourriture déposées par leur dieu, ses moustaches frémissent. Et inconsciemment, ses babines se retroussent sur un sourire soi-disant cruel. Je lui ouvre la fenêtre, il entre, dédaigneux, passe sous le lit et va m'attendre au-dessus de l'escalier, où là, enfin, avant de descendre, il quémande sa caresse matinale. Alors, impatient, il se dresse sur ses pattes de derrière et on voit sa tête à la rencontre de ma main. Cette nouvelle journée commence paradoxalement sous les meilleurs auspices. Je suis dans le grand hall où je casse les amandes de la dernière saison. « Excellent exercice d'ergothérapie », m'a dit Ernest, l'animateur. Je suis assise à la grande table en bois, celle avec la nappe cirée, imitant une page d'écriture copte. Un agréable rayon de soleil s'invite par la porte grande ouverte sur le calme du parc. Les palmiers sont encore pour la plupart en tenue estivale, ce qui, en soi, est peu courant dans la dernière semaine d'octobre. Le soleil vient de la gauche, ce qui est parfait pour moi qui suis droitière. Mon chaton adoré est assis sur un coin de la table et regarde avec attention mon travail. Il aimerait jouer avec les amandes, il ronronne pour m'amadouer car il sait que la table lui est interdite. Il règne un silence fantastique, seulement troublé par le petit craquement répétitif du casse-noix lors de chaque éclatement de fruits secs. Le ronronnement s'arrête, le chaton tend une patte vers une amande qui roule jusque vers lui. Je fais psst. Il recule et le ronronnement reprend de plus belle. Il n'y avait pas beaucoup d'amandes cette année, ni beaucoup de fruits d'ailleurs, mais elles sont plus douces que d'habitude. Terminé les amandes. Un peu d'écriture maintenant. Il fait si calme, le temps est tellement lent et épais. Aïe, le crayon a attiré l'attention de Minou. Il vient voir de plus en plus près les mots créés sur le papier. Je crois qu'il devine que certains parlent de lui. Des corneilles passent, elles retournent au nid pour la nuit, c'est la peine de la vie qui passe. Comme j'ai repris le crayon, il vient s'installer sur mon bras gauche, celui exposé au soleil, il observe avec beaucoup de curiosité son mouvement. À nouveau, son ronron s'arrête et d'un coup, il s'endort. Le soleil, le chaton endormi, les amandes étalées sur la table, tout est présent pour cet instant de plénitude. Seule, ma perte de mémoire est gênante, une larme sourde l'œil droit, coule le long de la joue, puis tombe de toute sa hauteur sur la page fraîchement écrite et y dessine un splendide hiéroglyphe. Edmond, maman et moi, nous nous étions revus dans la chapelle de Milly-la-Forêt, celle au beau dessin de Cocteau, sans rien éveiller chez moi. Mais le centre estimait que j'étais guérie et j'ai repris mes études en archéologie au grand étonnement de tout le monde. J'ai réussi ma défense de thèse avec brio sur le sujet rébarbatif, le monnayage des volques à récomise et leur influence dans la basse vallée du Rhône. Mon seul regret, l'absence de papa. Je suis certaine qu'il aurait été fier de moi. Et voilà qu'une boîte de cigarettes Camel me rappelle tout en force cet amour fou qui nous tenait dans ses raies. Comment ai-je pu oublier ces moments de pur bonheur? Edmond pense-t-il encore à moi? Mon Dieu, quel égoïsme! Et lui, comment a-t-il vécu cela? Peut-il encore y avoir un espoir de bonheur pour nous deux? Je ne sais, mais j'espère.